Bonsoir. Eh bien, pour cette première partie de la France libre de Henri Foucrot, nous recevons le professeur Olivier Gohin, professeur de droit, Université Paris-Panthéon-Assas. Le professeur Olivier Gohin enseigne le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit public de la sécurité et de la défense. Avec le professeur Gohin, nous allons parler de trois sujets dont nous avons déjà parlé, professeur, il y a plusieurs mois. Et ce sont des sujets pendants, chauds, dont vous nous avez très bien parlé au cours des mois précédents. Et vous allez nous donner, je pense, les informations les plus précises par vos fonctions et par le travail, le temps que vous y avez consacré depuis plusieurs années sur ces différents dossiers. Dans l'ordre, si vous êtes d'accord, nous allons aborder la situation de la Nouvelle-Calédonie.
La Corse d'abord.
Alors, on va passer à la Corse d'abord. Le statut de la Corse et les projets de modification qui sont en cours. Ensuite, si vous êtes d'accord, la situation de la Nouvelle-Calédonie.
D'accord.
La situation sur le terrain, les projets ou les interventions en cours et à quoi s'attendre. Et puis enfin, la question importante qui recouvre aussi les deux, c'est la République. Quelle est l'actualité juridique, administrative, constitutionnelle qui concerne la République aujourd'hui?
Alors, on va commencer effectivement par la Corse, d'abord parce que nous enregistrons cette émission le 16 juin et que c'est aujourd'hui même que l'Assemblée nationale connaît du texte de la révision constitutionnelle en première lecture, et qui consiste à insérer dans la Constitution actuelle un article 72-5 qui est relatif à un statut d'autonomie dont la Corse serait désormais dotée. Et c'est une question qui soulève beaucoup de problèmes, qui pose beaucoup de questions au regard du caractère unitaire de la République et au regard de l'unicité du peuple français. Alors, il faut commencer par dire que la Corse estime être dans une situation de spécificité qui lui est propre, mais qui, à la vérité, est assez généralement définie par des problématiques de géographie ou d'histoire ou de culture qui me semblent pouvoir être tout à fait rencontrées aussi dans d'autres collectivités territoriales de la République, parce que ces problématiques sont aussi connues outre-mer, qui sont très différenciés les uns des autres, comme du reste, ils sont aussi connus dans la France continentale. Par exemple, la Bretagne ou l'Alsace ou le Pays Basque ont aussi et pourraient avoir aussi, après tout, des revendications d'autonomie. Et on voit bien que tout ceci pose, à la vérité, un problème de caractère constitutionnel, mais derrière la Constitution, un problème de caractère politique,
oui,
qui est de savoir comment la République, qui apparaît quand même en crise, on en reparlera en fin d'émission, peut arriver ou parvenir, en tout cas, à traiter ces questions,
oui,
qui sont bien sûr territoriales, mais derrière le territoire, qui impliquent des considérations sociales, économiques, politiques. Cette spécificité n'est pas nouvelle. En particulier, je dirais ceci. Nous avons une régionalisation qui a été opérée dans le mouvement de la décentralisation en 1982 par une loi générale qui s'appelle la loi Defferre, qui régit aujourd'hui globalement les collectivités territoriales, qui consistait pour l'essentiel à permettre à l'exécutif de la région d'être désormais assuré par le président du conseil régional, comme le maire et l'exécutif de la commune, comme aussi le président du conseil aujourd'hui départemental, il fut général, était par cette loi de 82 l'exécutif du département. Donc ça, c'était, s'agissant des départements et des régions, des compétences qu'on a retirées au préfet, qui était l'exécutif des départements et des régions, qu'on a attribuées au président élu de l'Assemblée délibérante, conseil départemental, général à l'époque, régional aussi. Et puis, il y avait aussi un deuxième élément dans la réforme qui importe, qui était au contentieux que désormais le préfet vienne opérer un contrôle de légalité, non pas par lui-même, mais par le tribunal administratif, de façon exclusive. Cela existait auparavant, mais cela devient systématique entre aujourd'hui, lorsqu'il y a contestation, lorsqu'il y a en quelque sorte un procès entre l'État en demande et la collectivité territoriale, eh bien, c'est le préfet qui actionne. Ça n'est plus, il n'y a plus de pouvoir de substitution, sauf quelques matières. Il n'y a plus de pouvoir d'instruction, et un certain nombre de pouvoirs administratifs que possédait le préfet auparavant. Donc, on a régionalisé. On a régionalisé en 82. Et pour la Corse, on a fait une région à statut particulier. Parce qu'on a estimé qu'il y avait des spécificités propres à la Corse. Ce qui, tout de même, était lié aussi à un climat de violence politique à l'époque. Et il faut toujours avoir ça à l'esprit, c'est-à-dire que, assez fréquemment, des réformes qui ont été entreprises l'ont été faites en réponse à des violences politiques. Ce qui n'est jamais, me semble-t-il, une très bonne chose. Ce statut particulier de la Corse en 1982 n'était pas très particulier. Effectivement, le conseil régional s'appelait Assemblée de Corse. Effectivement, il a été mis en place tout de suite au suffrage universel direct, qui a d'ailleurs été modifié en 84 parce qu'on avait pris des dispositifs électoraux qui n'étaient pas très performants. Mais il y avait effectivement des compétences d'attribution par l'État et des compétences également qui avaient été prises au département Corse, aux deux départements Corse qui ont été établis en 1975. Donc effectivement, la région de Corse, avec son assemblée de Corse particulière et avec ses compétences qui étaient un peu plus importantes que celles d'une région normale, était un peu différente, pas beaucoup. Ce statut n'ayant pas paru satisfaisant et n'ayant pas satisfait en tous les cas les élus corses, il a été modifié assez substantiellement en 1991, et on parle à ce moment-là du statut JOX. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de créer une collectivité territoriale de Corse, qui a en somme, qui prend la succession de la région de Corse, et qui a toujours une assemblée de Corse, avec des compétences plus importantes, qui sont là encore retirées au département. Donc c'est un changement de dénomination. On passe d'une région à une collectivité territoriale, et c'est toujours un statut particulier, qui a d'ailleurs été repris en 2002 par le ministre Vaillant. Mais les modifications n'ont pas paru là encore satisfaisantes. Vous voyez que donc c'est de façon très progressive et toujours justifiée par ces spécificités qu'on a progressé dans un éloignement de la Corse par rapport au droit commun, c'est-à-dire au droit de la France continentale, puisque la Corse n'est pas évidemment outre-mer. Alors la rupture, elle est plus nette avec le statut suivant, qui est celui de la collectivité de Corse. Alors, je comprends bien que ce soit un peu difficile à suivre. On a eu une région de Corse en 82, une collectivité territoriale de Corse en 91, et on a maintenant une collectivité de Corse. De quoi s'agit-il ? Là, il s'agit d'une collectivité territoriale unique, qui vient remplacer la collectivité territoriale de Corse, mais aussi les deux départements corses, qui disparaissent en tant que collectivité territoriale. Ils disparaissent en tant que collectivité territoriale. Autrement dit, en Corse, il y a désormais l'Assemblée de Corse, et il n'y a plus les deux conseils généraux de Corse du Sud et de Haute-Corse qui avaient été créés, comme il a été dit, en 1975, quand on a bidépartementalisé la Corse, qui était auparavant, depuis 1811, en situation monodépartementale. La réforme est importante, c'est toujours un statut particulier, mais on comprend bien que ça donne une puissance considérable à cette Assemblée de Corse, et donc aux élus de cette Assemblée de Corse, qui, depuis 2021, est à majorité autonomiste. Étant précisé que, d'ailleurs, il y a une prime majoritaire assez forte aux élections à l'Assemblée de Corse, puisqu'elle est de 11 sièges sur 63, c'est-à-dire 17% des sièges. Mais il est vrai que dans les conseils régionaux, cette prime est à 25%. On ne peut donc pas véritablement venir critiquer la prime. Mais cette prime, elle existe pour assurer une gestion stable et durable, et une majorité en tout cas, dans une assemblée qui est tout de même élue à la représentation proportionnelle. Et donc on évite en quelque sorte par la prime majoritaire qu'il y ait un émiettement de la représentation. Alors ce statut de collectivité unique, je dois tout de même préciser qu'il a été imposé par la loi alors qu'il avait été refusé par la population corse à l'occasion d'une consultation organisée en 2003. Il est assez fréquent de venir critiquer l'attitude de la France au regard de l'Union européenne, et en particulier de venir dire ce qui est exact, que le peuple français a rejeté la Constitution européenne en 2005 et que cependant le traité de Lisbonne est passé en 2007 avec une révision constitutionnelle qui était nécessaire dans les deux cas et que de ce point de vue, le traité de Lisbonne a méconnu la décision prise par le peuple français. Alors c'est assez largement vrai et faux, c'est vrai, largement en tout cas, ça peut être largement vrai et faux, c'est largement vrai, mais et ceci est faux c'est en ce que ça n'est pas un traité constitutionnel. C'est-à-dire qu'on a déconstitutionnalisé traité de Lisbonne, même si la vérité ça ne change pas grand-chose, puisque la Commission, la Banque, le Parlement, exactement la même lecture, il fédéralise très volontiers la construction que l'on a voulu ne pas être fédérale. Mais je ferme cette parenthèse, simplement pour venir dire que vous voyez qu'il y a un autre exemple, et il y a d'autres exemples encore, j'y reviendrai à la fin de cette émission, de méconnaissance des exigences de la démocratie directe. Oui.
Mais ce vote précisément là, qui a eu lieu, il y a donc eu antérieurement, en 2003, un vote qui était un référendum.
Absolument. Une consultation locale. Mais référendum, voilà, parce qu'elle était
référendaire.
Pour décision. Voilà, oui. Et elle a été perdue à 51% seulement de la population consultée, des électeurs, en particulier grâce à Bastia. Qui perdait beaucoup, bien entendu, dans ce statut de collectivité unique, puisque les départements disparaissant, Bastia cessait d'être le chef-lieu d'un département, alors même que Ajaccio, restant le chef-lieu de la collectivité de Corse, ne subissait pas une situation aussi désagréable. Oui. Et donc, il faut aussi saluer la mémoire de M. Zuccarelli, qui a été le maire de Bastia et qui a beaucoup fait dans l'échec de ce projet de 2003 que nous devons au président Sarkozy. Ou plus exactement, il était à l'époque ministre de l'Intérieur, avant d'être président en 2007, et qui avait monté ce dossier en liaison, il faut bien le dire, avec les autonomistes. Bien entendu, le président Jacques Chirac était au courant, mais enfin, je pense qu'il faut aussi peut-être parfois balayer devant sa porte, me semble-t-il, quand on émet des critiques sévères. Donc ce statut de collectivité territoriale unique, c'est celui que nous avons aujourd'hui. Et c'est toujours un statut particulier, Mais comme vous voyez, dans l'énumération que j'ai faite et que j'ai voulu faire, le particularisme est de plus en plus grand. Et en particulier, ce particularisme de plus en plus grand vise à donner à la collectivité des compétences de plus en plus importantes sans que cette collectivité s'en satisfasse. D'où la demande d'un statut d'autonomie. Et l'autonomie, ce n'est pas le statut particulier. Nous avons le statut particulier dans la Constitution. Je renvoie par exemple à l'article 72, tout simplement, premier alinéa de la Constitution, qui en parle, et qui nous dit qu'une collectivité peut être un statut particulier déterminé par la loi, et qui nous dit aussi que lorsque l'organisation de la collectivité à statut particulier change, la population peut être consultée. C'est à l'alinéa 3 de l'article 72-1. Ici, comme nous avons un statut d'autonomie, que ce n'est pas un statut particulier, il faut changer la Constitution. Pourquoi avons-nous aujourd'hui une délibération constitutionnelle? C'est parce que nous voulons un autre statut que le statut particulier. Alors ce statut d'autonomie que nous aurons si la Constitution est révisée, c'est-à-dire l'Assemblée nationale accepte cet article 72-5, si dans les mêmes termes à la virgule près, le Sénat accepte cet article 72-5. Et si le Congrès est réuni, c'est la réunion des députés et des sénateurs, et se prononce à une majorité qui n'est pas très qualifiée, pour prendre un terme juridique, puisqu'elle est de 3/5 des suffrages exprimés. Ce n'est pas un obstacle considérable. Je doute fort que la réforme soit mise devant le peuple français comme il serait de règle, comme il est de principe, et je ne pense pas que ce soit le cas. Alors je voudrais dire que cette révision constitutionnelle, elle est dans un très mauvais calendrier. Très mauvais calendrier pour différentes raisons. La première, c'est que si la révision passe à l'Assemblée nationale, parce que, en particulier, elle n'est pas combattue par LFI et qu'elle n'est pas combattue non plus par le Rassemblement national. En particulier, si ces deux représentations politiques au sein de l'Assemblée nationale s'abstiennent, ne votent pas contre, alors ça ira au Sénat.
Oui.
Mais ça ira au Sénat en octobre prochain seulement. Après les élections sénatoriales, qui vont modifier la moitié du Sénat, dont d'ailleurs les représentants de la Corse, car il se trouve que les sénateurs corses sont rééligibles et qu'ils seront éventuellement réélus. Et vous voyez bien que ça pose un problème, parce que nous sommes aussi dans une perspective de campagne présidentielle.
Bien sûr.
Et que nous savons bien aussi que derrière la présidentielle d'avril-mai 2027, il y aura une dissolution de l'Assemblée nationale. Aucun président de la République élu ne gardera cette assemblée, qui est ingérable.
C'est la mécanique du quinquennat.
Et c'est d'ailleurs la mécanique du quinquennat, c'est la mécanique du fait majoritaire sur lequel nous reviendrons en fin d'émission. Par conséquent, nous aurons une nouvelle Assemblée nationale. Acceptera-t-elle, si le texte n'est toujours pas en termes identiques, le travail qui aura été fait par l'Assemblée nationale précédente? Est-ce qu'elle acceptera ce que le Sénat aura fait, s'il fait quelque chose, et s'il accepte quelque chose à l'automne 2026? Ce n'est pas du tout certain. Ce n'est pas du tout certain. Au surplus, et pour compliquer un peu les choses, à la fin de l'actuel de l'article 72-5 en l'état, car il pourra bouger, bien entendu, comme vous l'avez compris, il y a une consultation de la population corse qui est prévue. Alors il a fallu la prévoir parce que nous sommes dans un statut d'autonomie. Elle était prévue pour le statut particulier, je l'ai dit, 72-1 alinéa 3, mais pour un statut d'autonomie, quand on part de la table rase, il fallait la prévoir. Et donc on l'a prévue. Et, qui plus est, à l'occasion d'un amendement de la commission des lois, le 2 juin dernier, cette consultation, qui était prévue pour être facultative, va devenir obligatoire.
Par le texte.
Par le texte. Voilà. Donc on va avoir cette situation sidérante d'une consultation obligatoire de la population corse après le vote de la révision constitutionnelle.
Oui, oui. Et d'une population qui avait déjà été consultée pour Exactement. Le regroupement global de la Corse et qui avait dit non, finalement.
Voilà.
Peu importe les motifs, avait dit non. Voilà. On va retourner
Alors, le texte dit qu'elle sera consultée sur le projet de statut. On ne comprend pas très bien ce que veut dire consulter sur le projet de statut, c'est-à-dire comment se fait dans le temps le passage, le temps de la consultation et le temps du statut. C'est déjà incohérent de faire une consultation après la révision, mais alors si on mettait en plus une consultation après le statut, alors là, on aurait évidemment quelque chose d'absolument complètement absurde, puisque le statut serait fait en application de la Constitution, qu'éventuellement constitutionnellement vérifié, parce qu'il est fait par une loi organique, et qu'il pourrait être fait par une loi organique, c'est pas évident, et qu'au demeurant, il aurait pu être même promulgué, puisque la loi aurait pu être conforme à la Constitution, puisqu'on révise la Constitution précisément à cet objet. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème d'enchaînement, le Lego est mal agencé.
De rationalité, tout simplement.
Mais alors,
bien sûr.
Là où il faut encore rajouter dans la complication, c'est que cette consultation qui serait obligatoire serait sans conséquence. C'est-à-dire que c'est bien une consultation. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites une consultation obligatoire...
Rien n'indique que le résultat est de moindre intérêt pour l'application du texte.
Bien sûr, mais une consultation obligatoire, ça reste une consultation. Donc ça reste un avis. Et même si l'avis est obligatoire, c'est un avis. Donc c'est pas un référendum.
Voilà.
Donc c'est pas une décision. Par conséquent, on pourrait avoir la possibilité d'avoir une population corse qui dise non à un statut d'autonomie porté par une révision constitutionnelle. Et alors, que fait-on? Est-ce qu'on comprend qu'on va avoir une rupture de paix civile et que l'on va avoir des violences, un retour à la violence armée?
Pour la deuxième ou troisième fois, pour la deuxième fois,
c'est ça.
pour la suppression des départements. La perte de pouvoir, si on peut dire, de Bastia et de sa région, de son aire d'influence, et y compris pour les Corses, même sujet que le problème Maastricht 2005.
Voilà.
Maastricht,
donc,
on applique 2005,
voilà.
On applique
donc,
pas.
On a on a monté vraiment une usine à gaz avec des tuyaux partout. Je pense en tant que juriste qu'il faut toujours qu'une réforme soit simple pour qu'elle soit comprise et appliquée. Et que trop difficile, on risque vraiment une perte en ligne.
Là, je fais simplement une réflexion de béotien, non juriste, éventuellement votant.
Mais si la plupart des électeurs sont dans votre cas.
Mais oui, j'ai l'impression. C'est que, en fait, les gens sont consultés, mais on sait d'avance le résultat. C'est oui, c'est non, mais de toute façon, le texte sera appliqué.
Oui, alors là, d'autant plus facilement que comme c'est une consultation et ce n'est pas un référendum, de toute façon... Alors, parce qu'en 2003, c'était quand même un référendum.
En général, une consultation peut servir pour... orienter.
Enfin, quand j'ai une référendum, en réalité, en 2003, c'était une consultation dont on a tenu compte parce que c'était non.
Oui.
La question, c'est de savoir est-ce qu'on peut passer outre, c'est la question que vous posez, est-ce qu'on peut passer outre une consultation qui serait négative. Alors, comme en 2003, dans le texte, bien que la consultation soit obligatoire, la réponse est oui, on peut passer outre. C'est ce que vous êtes en train
de dire.
Et vous posez un problème politique.
Oui.
Est-ce que ça sera possible? Donc, autrement dit, c'est une consultation obligatoire qui, en réalité, sera un référendum. C'était le cas où, finalement, en 2003, ça revenait à un référendum. Parce qu'on sait très bien qu'en réalité, on sera lié par le résultat. Va provoquer une rupture entre le pouvoir de révision qui appartient aux parlementaires, c'est-à-dire, en fait, entre les parlementaires et la population corse.
Oui.
Et donc une rupture dans le schéma démocratique.
Oui.
C'est-à-dire quand vous avez un peuple ou une population qui s'éloigne de ses représentants, Il y a un vrai problème.
Oui, oui, oui.
C'est le problème que nous connaissons depuis 2005.
Oui, 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 oui.
Et que nous avons eu beaucoup d'occasions de vérifier, mais j'y reviendrai. Alors, qu'y a-t-il dans le, donc, entre Mandil, dans ce statut d'autonomie qui consiste à tenir compte de quoi? De l'insularité méditerranéenne.
Personne ne la conteste.
Personne ne la conteste, et j'ajoute que dire qu'elle est méditerranéenne peut paraître un peu surprenant. Porquerolles a aussi une insularité méditerranéenne.
L'eau est très salée.
Alors on parle ensuite de sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre. Bon, ça peut paraître rien, et c'est beaucoup. En quoi? Parce qu'en réalité, c'est une autre façon de parler du peuple corse.
Oui.
Voilà. Le peuple corse, on ne peut pas le... On peut bien sûr l'écrire dans la Constitution, mais on n'a pas voulu l'écrire, parce que dans la Constitution, il y a quand même aussi le peuple français.
Oui.
Et parce que le Conseil constitutionnel a dit que le peuple corse, ça n'existe pas, même comme composante du peuple français.
Oui.
Parce qu'il y a en France un peuple, et pas des peuples, parce que nous avons un État qui est unitaire. Et qui n'est pas fédéral, et parce que la Corse n'est pas indépendante. C'est tout simple. Et donc, dans sa décision bien connue du 9 mai 1991, qui porte précisément sur le statut JOX, de collectivité territoriale de la Corse, le Conseil constitutionnel a dit ça très clairement. Il l'a dit aussi, d'ailleurs, de façon très claire, dans une décision du 15 juin 1999, qui porte sur la Charte européenne des droits des langues minoritaires ou régionales. Convention que la France a signée, mais qui n'est pas... susceptible d'être ratifié, puisqu'il faudrait revenir sur le veto du Conseil constitutionnel et procéder à une révision constitutionnelle. Donc on n'a pas pris cette occasion, heureusement, de 2026 pour venir réviser la Constitution qui est bloquée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel depuis 91, répétée en particulier en 99. Mais l'Assemblée de Corse a dit dans une délibération de 88 que le peuple corse, c'était précisément une communauté historique, linguistique et culturelle. Donc, en réalité, il a dit lui-même l'équivalence. Mm-hmm. On sent bien que derrière la communauté, il y a le peuple.
Oui, oui.
Du reste, si je m'appuie sur l'accord de Nouméa de 1998 qui concerne la Nouvelle-Calédonie, nous allons y revenir. On trouve dans le préambule de l'accord de Nouméa de 98, 5 mai, le terme de peuple, par exemple peuple kanak, et on trouve le terme de communauté. Communauté humaine. C'est ça qu'il faut dénoncer. C'est cette dissimulation, c'est ce travestissement, cette façon, en somme, d'avoir la chose sans lui donner son nom.
Voilà, c'est un déterminisme préalable, quel que soit le résultat d'un vote, le vote étant maintenu comme obligatoire et nécessaire.
Voilà.
Par la forme.
C'est ça. Alors, donc, autrement dit, alors, j'ajoute au surplus qu'on a la notion d'intérêt propre. Il est question de la Corse qui a un statut d'autonomie qui tient compte de ses intérêts propres et qu'il faut aller à l'article 74 de la Constitution pour trouver la notion d'intérêt propre, c'est-à-dire à un article qui est relatif précisément à des collectivités territoriales d'outre-mer telles que la Polynésie française. C'est-à-dire qu'en somme, on est en situation de venir en quelque sorte aligner la situation de la Corse en matière d'autonomie sur celui de la Polynésie française, qui est très distanciée par rapport à la France continentale, pour des raisons qu'on comprend très bien, et qui, au demeurant, je le dis au passage, mais c'est important, n'est pas dans l'Union européenne, contrairement à la Corse.
Oui. Ah oui.
Parce que, vous comprenez, oui. Il faut bien comprendre... La Polynésie française n'est pas hors Union européenne. Elle est un pays et territoire d'outre-mer. Oui. Tandis que la Corse, elle est dans l'Union européenne. Elle ne l'est même pas d'ailleurs au titre d'une région ultra-périphérique, comme c'est le cas par exemple de la Martinique. Oui. Elle est au titre de l'ensemble du territoire de droit commun de la France. C'est-à-dire de la France continentale, Corse comprise. Ce qu'on appelle bizarrement parfois l'hexagone. Je ne vois pas très bien comment on peut faire un hexagone avec la Corse. Sauf vraiment à changer les règles des mathématiques.
Oui.
Mais c'est à la mode. On dit France hexagonale. Oui. On dit hexagone pour éviter de dire métropole.
Oui, qui était trop connotée pour les générations antérieures.
Donc, vous voyez, toujours les termes, des toujours les discours. Très années 60, exactement. Oui. Décennie du le droit du développement. Oui. Bien, donc, vous voyez que cet alinéa premier de l'article 72.5, la Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République qui tient compte de ses intérêts propres liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre, est en soi un problème considérable.
Oui.
Du reste, dans la commission des lois, le 2 juin, on a supprimé le « ça » au profit du « là ». Un lien singulier avec la terre et non pas sa terre. Parce que sa terre, ça veut dire qu'en somme, ils sont chez eux.
Oui. Et donc les autres
et que les autres ne sont pas chez eux.
Les autres sont exclus par nature.
Voilà, c'est-à-dire qu'en définitive, il y a une discrimination qui est opérée entre les Corses, on trouve même les Corses d'origine. Et les autres.
Oui.
Qui, n'étant pas corse, sont quoi alors ?
En particulier un préfet.
En particulier un habitant de l'Indre qui a la bonne idée d'aller passer ses vacances en Corse.
Ou un fonctionnaire, bien entendu,
qui est nommé en Corse.
Voilà.
Et donc. Alors, c'est très. En réalité, c'est là où, vous voyez, j'essaie de dire que le droit est souvent. Le diable est dans les détails, mais le droit est souvent dans les détails, parce que derrière tous ces détails, éventuellement de vocabulaire, il y a des règles qui sont possibles, il y a des contentieux qui peuvent être développés.
Oui.
Et de quoi, quand on dit lien singulier avec sa terre, c'est permettre, par exemple, un statut de résident, qui serait un statut discriminatoire. Au profit des Corses.
Oui.
C'est venir envisager la question du foncier au profit des Corses.
Du droit de propriété différencié.
Droit de propriété différencié. Droit fiscal sur la propriété différencié. Et la Corse a connu un régime fiscal, dit des arrêtés Miot, différencié depuis... depuis aurait été la Révolution française, ou plus exactement le consulat. Et que ce système de fiscalité dérogatoire en matière foncière et en matière de succession est en voie d'extinction, mais il n'est pas certain qu'on ne puisse pas le faire ressurgir. Et c'est là où j'en viens sur les possibilités de différenciation juridique. Alors, on va distinguer le droit de l'État en Corse et on va distinguer, par rapport au droit de l'État en Corse, le droit des compétences exercées par la Corse, par l'Assemblée de Corse, en Corse. Autrement dit, le droit en Corse, c'est soit un droit de l'État, soit un droit de la collectivité. Quand c'est le droit de l'État, c'est peut-être un droit des lois et c'est un droit des règlements.
Oui.
Donc à ce moment-là, il est possible que le législateur ou que le pouvoir réglementaire vienne adapter la loi de l'État en Corse. Quand il s'agit du droit de la collectivité, c'est l'Assemblée de Corse qui va être susceptible de prendre des textes en matière législative ou en matière réglementaire, par des délibérations de l'Assemblée, pour venir modifier le droit applicable dans la collectivité. D'accord ? Par exemple, parce que je crois qu'il faut quand même donner des exemples dans ce droit qui, je le comprends, est assez complexe. Dans les matières de l'État, nous avons la desserte électrique, la gestion des déchets, la question du foncier, la question de l'enseignement.
Le droit de la santé, peut-être.
La santé.
C'est important.
Bien sûr, c'est très important. Nous avons le droit du travail, le droit syndical, le droit de la sécurité sociale. Tout ça, ce sont des droits de l'État. Que l'État va pouvoir venir différencier en Corse. Est-ce qu'on a bien réfléchi à ça? Est-ce que cette différenciation, elle se fera toujours, j'allais dire, par le haut? Est-ce qu'on ne va pas restreindre le droit à la propriété foncière au profit des Corses? On vient de le dire. Est-ce qu'on ne va pas traiter différemment en matière de santé les Corses et ceux qui ne sont pas Corses?
On peut penser à la santé parce que la santé touche tout électeur.
Est-ce que le droit syndical sera le même dans les entreprises en Corse? Est-ce qu'il ne sera pas moins avantageux?
Oui.
Voilà. Est-ce qu'on a réfléchi à ça, par exemple, chez LFI, sur la régression sociale qui serait possible par l'État, dans le cadre, effectivement, d'une législation organique d'encadrement, sans qu'il soit porté atteinte aux libertés fondamentales, tout ceci est prévu. Autrement dit, il est vrai que ça ne sera pas exactement n'importe comment, mais je rappelle que la loi organique, c'est une loi de l'État, que les libertés publiques, ce sont des lois constitutionnelles de l'État,
qui ne sont
donc,
pas
autrement dit, tout ceci
révision,
n'est pas
voilà.
du tout insusceptible de modification par l'État. Le droit de l'État, il est tout simplement maîtrisé par l'État, quel que soit le niveau où ce droit se forme. Quand bien même, d'ailleurs, il s'agirait d'un droit de jurisprudence, parce qu'après tout, les juridictions sont des institutions d'État.
Oui.
Ce n'est pas parce que vous séparez le pouvoir législatif du pouvoir, ou le pouvoir réglementaire du pouvoir juridictionnel, administratif ou judiciaire, que pour autant, ces pouvoirs ne sont pas des pouvoirs d'État. Tout ça sont des pouvoirs d'État. Je dirais le seul droit qui peut éventuellement imposé, c'est le droit de la Convention européenne, parce que nous sommes partis à la Convention européenne et que nous avons parfois à subir la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'impose à nous et qui condamne la France pour méconnaissance d'un traité auquel elle est partie, ou bien, plus important, le droit de l'Union européenne. Parce que le droit de l'Union européenne est un droit qui n'est pas un droit qui repose sur l'unanimité.
Ou non.
Et parce qu'il y a une Cour de justice qui peut imposer des solutions, et ces solutions, à l'État français, comme à tout État membre. Y compris contre sa Constitution. Donc, autrement dit, j'allais dire que l'État a en effet les marges qu'il veut avoir, sauf que, compte tenu d'une réduction de ses compétences de souveraineté, il n'a pas la main sur le droit européen de l'Union ou de la Convention. Alors je dis ça, c'est important, parce que si vous avez, par exemple, une législation de l'État qui est discriminatoire en faveur des Corses dans le foncier en Corse, il peut très bien y avoir un contentieux qui soit porté à un certain moment devant l'Union, la Cour de justice, par exemple, qui consistera à expliquer qu'on est en train de faire une discrimination, du reste, non seulement à l'égard de tous les Français, mais également à l'égard de tous les Européens, tous les citoyens de l'Union européenne. Voilà. Donc, je dis ça pour montrer que il y a tout de même des marges très importantes pour l'État et que ces marges peuvent être finalement utilisées pour des discriminations négatives et qu'au demeurant, ces marges n'existent pas avec autant d'importance en matière de droit européen. Alors, il y a aussi les compétences de la collectivité. Et là, c'est la collectivité elle-même qui va avoir le pouvoir de modifier les textes législatifs et réglementaires dans ses compétences. Par exemple, le tourisme, par exemple, le développement économique, par exemple, l'aménagement du territoire. Ce sont des compétences de la collectivité de Corse.
Ah oui.
Alors, bien entendu, là encore, ces surhabilitations, et c'est dans le cadre d'une législation organique d'encadrement, c'est en préservant les libertés publiques. Autrement dit, ça n'est pas exactement n'importe comment, n'importe quand, n'importe. Enfin, c'est pas n'importe quand, c'est pas n'importe quoi, mais on comprend bien qu'il y a des marges. Alors, je vais prendre deux contentieux récents et qui font difficulté en Corse, dont je vous ai parlé tout à l'heure quand nous nous sommes vus. Premier contentieux, c'est au sujet d'une croix qui a été implantée sur le domaine public en Corse, dans une commune de la Corse du Sud, qui a donné lieu à un jugement du tribunal administratif de Bastia, qui est un jugement qui est de 2025, dont je ne sais pas d'ailleurs s'il a été interjeté à appel. Jugement rendu sur des ferrées préfectorales. Que se passe-t-il ? Nous avons une loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État qui dit qu'on peut avoir des croix sur le domaine public à partir du moment où elles existaient avant 1905. Que si elles n'existaient pas avant 1905, il n'est pas possible de les mettre sur le domaine public. La requérante avait soutenu que cette croix n'existait pas avant 1905 et la commune en défense a été incapable de prouver le contraire. Et donc, la juridiction a acquiescé au fait du demandeur et a par conséquent dit qu'en effet, elle n'était pas présente avant 1905 et donc elle était illégale, ce qui fait un tollé considérable sur place. Il est donc envisageable que l'on vienne changer la législation de 1905 en Corse pour permettre ces implantations sur le domaine public. Alors, on peut penser au fond que c'est très bien. Je dis simplement qu'il y a une légalité et qu'il faut faire toujours très attention parce que quand on commence par rentrer dans l'illégalité, on ne sait plus très bien à quel moment ça risque de se terminer. Et que ce ne seront pas forcément des croix chrétiennes qui seront implantées sur les domaines publics. Parce qu'il n'y a pas que la religion catholique, même si elle est largement majoritaire à l'évidence en Corse. Autre exemple, il existe des écoles privées d'enseignement immersif en Corse, comme il existe d'ailleurs des écoles privées d'enseignement immersif en breton. Dans le premier cas, c'est l'affaire Scola Corsa, la deuxième cas, c'est l'affaire Diwan. L'enseignement immersif, ça n'est pas seulement un enseignement de la langue à caractère facultatif en dehors des horaires obligatoires, ce qui se conçoit parfaitement. Que l'on enseigne le corse en Corse à des élèves dont les parents veulent que cet enseignement soit assuré peut se comprendre, y compris d'ailleurs dans l'enseignement public. On peut trouver quand même étonnant qu'il y ait des établissements privés d'un enseignement immersif qui concerne aussi l'histoire, la géographie, les mathématiques, la physique et toute matière de l'enseignement obligatoire,
général
et obligatoire, qui est destiné à être sanctionné à un certain moment par un baccalauréat, c'est-à-dire un diplôme national, à épreuve nationale, sur sujets nationaux. Et dans ce contentieux qui a été traité, qui est en cours de traitement sur des ferries préfectorales, de quoi s'agit-il ? La collectivité de Corse subventionne ces écoles privées d'enseignement immersif. Corse. Il y a donc une subvention de la collectivité de Corse, dont le préfet soutient qu'elle est illégale, en s'appuyant d'ailleurs sur l'affaire Diwan, puisque nous avons un arrêt du Conseil d'État de 2002 qui dit que c'est illégal, quand il s'agit du breton, et donc par conséquent quand il s'agit du corse, ou de l'alsacien, ou du basque, du niçois, ou de tout parler normand, ou de toute langue régionale française.
Là, ce que vous êtes en train de pointer, c'est qu'en fait, en Corse, ce ne serait plus...
Alors voilà, donc voilà, vous m'avez suivi, je vous en remercie. Eh bien, ça peut être rectifié. Ça peut être rectifié, alors selon que l'enseignement corse, est-ce que l'enseignement corse est-il dans la compétence de l'État, dans la compétence de la collectivité ? Je dirais que c'est dans la compétence de l'État, mais en tous les cas, il y a la possibilité de, si on trouve une compétence à la collectivité, qui en a quand même en matière d'enseignement, ne serait-ce qu'en matière de locaux, par exemple la collectivité de Corse qui fixe le calendrier des vacances scolaires en Corse. Donc, il y a peut-être des possibilités de demander une dérogation. Enfin, je suis en train de dire que vous voyez qu'on est en train d'ouvrir la boîte de Pandore. On ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans, mais il y a quand même beaucoup de choses, parce que la loi, le règlement, c'est délibéré. Libération en matière législative, en matière réglementaire, ce sont des choses dont on peut dire qu'elles sont d'une très large compétence. Ça existe, ces possibilités, dans le droit de la Polynésie française, avec ce qu'on appelle des lois du pays. Polynésiennes, ça existe en Nouvelle-Calédonie, avec ce qu'on appelle des lois du pays calédoniennes. En venant dire ici... pour droit que ces lois du pays ne sont pas des lois, comme d'ailleurs un ministre polynésien ou un ministre calédonien n'est pas un ministre, tout simplement parce que le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif sont des pouvoirs d'État au niveau national, ce qui a été dit très évidemment par le Conseil d'État ou par le Conseil constitutionnel. Mais vous voyez bien l'idée. L'idée, c'est d'un pouvoir législatif qui serait dévolu. C'est que, finalement, la loi serait partagée. Non, matériellement, bien sûr, ça peut être une loi. Formellement, non, parce que celui qui a le pouvoir législatif, si je prends ce pouvoir, c'est le peuple français. Soit il l'exerce directement, ce qui est rare, par référendum législatif, soit...
Et quand il vote par référendum
législatif, le dernier référendum législatif, et son résultat a été méconnu, c'était en 2005, le pouvoir est exercé par les représentants qui s'appellent les députés, les sénateurs, qui sont des législateurs, et qui font cette fonction, cette mission de représenter le peuple et par conséquent de faire la loi à sa place. Voilà, donc, j'ajoute encore quelque chose qui peut paraître étonnant, mais qui devrait être corrigé, c'est en tous les cas la commission des lois l'a demandé, c'est que dans le cadre, par exemple, de la Polynésie française, puisque j'ai évoqué ce sujet, mais c'est le cas aussi de la Nouvelle-Calédonie, en tout cas en Polynésie française, il n'est pas possible de venir légiférer dans les matières de souveraineté. Enfin, excusez quand même Du peu, il y a des matières de souveraineté dont la Constitution nous donne la liste. Elle était l'article 73, alinéa 4. La nationalité les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité, l'ordre public, la monnaie, le crédit, l'échange, le droit électoral. Donc, ces limitations, ces matières exclues, elles ne sont pas exclues dans le texte actuel. Autrement dit, on peut faire en Corse un droit électoral corse. On peut faire en Corse un droit de la nationalité corse. C'est pas possible, c'est pas admissible. Enfin, où va-t-on ?
On va mettre certains aspects de la défense.
Mais bien sûr.
Voilà.
Ou de la sécurité. Comment le président de la République, qui est l'initiateur du texte, je rappelle que le président de la République est l'initiateur du texte, texte de révision, a-t-il pu faire venir, d'ailleurs contre l'avis du Conseil d'État, un texte pareil devant les assemblées, et devant l'Assemblée nationale en particulier? Donc je pense que la Commission des lois sera suivie sur cette question-là. Alors, il y a aussi, je terminerai dans cette technicité qui est un peu grande, il y a la possibilité pour le gouvernement de prendre des ordonnances, autrement dit, de prendre des textes qui ne passent pas par la voie normale du Parlement, pour, et donc de la loi, parce que ces ordonnances, ce sont des textes qui sont émises en Conseil des ministres, d'accord, après avis du Conseil d'État. Donc, en fait, ça fonctionne comme un règlement. Mais il y a, à la fin, une ratification par le Parlement, qui est d'ailleurs une ratification obligatoire, et dans un délai qui est un délai de 18 mois, sans quoi l'ordonnance tombe. D'accord ? Ceci veut dire quoi ? C'est-à-dire que nous sommes dans la matière de la loi, que celui qui agit n'est pas le législateur, mais que le législateur intervient à la fin pour donner à cette matière de la loi la forme de la loi. Et quand on a et la matière et la forme de la loi, on a la loi. Donc, autrement dit, l'ordonnance, c'est une pré-loi qui devient loi parce que le Parlement l'admet, la formalise.
Oui.
Le grand avantage de l'ordonnance, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par la délibération, on fait un texte qui est assez compliqué, qui est assez technique, et que ce texte-là, on en maîtrise complètement la matière. Ce qui est compliqué, c'est qu'il est dit par le texte que il s'agit d'adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité. Autrement dit, il s'agit de modifier les lois, très bien, sous réserve que les lois ne l'aient pas exclues, ce qui nous va aussi. Mais il nous dit quand même qu'il y a quand même une matière. Et quelle est la matière ? Les matières législatives qui ne se relèvent pas de la compétence de la collectivité de Corse. Mais les matières législatives qui ne relèvent pas de la compétence de la collectivité de Corse, ce peuvent être des matières qui sont extrêmement vastes. Par exemple, déjà pour commencer, sauf si on les exclut, les matières de souveraineté.
Oui, oui. Ah, donc, les obligations de...
Et on va aussi le bloc communal, c'est-à-dire le droit des communes, le droit de l'intercommunalité, le droit européen, même le droit européen de la Convention n'est pas exclu. Il n'y a pas une réduction suffisante. Donc le texte est extrêmement mal construit, extrêmement mal rédigé, extrêmement risqué, extrêmement dangereux pour l'unité de la République d'abord, à raison de ce statut d'autonomie et d'un peuple français qui est et qui doit rester unique, et aussi compte tenu des pouvoirs considérables qui sont donnés à l'État à la demande de la collectivité ou à la collectivité directement, dans un encadrement juridique qui est parfaitement insuffisant. Et je vais dire ceci, c'est le maquis corse après le gâchis calédonien.
Car tout ceci
rappelle beaucoup, et ça me servira de transition, rappelle beaucoup la construction effroyable que l'on a faite prétendument en faveur de la Nouvelle-Calédonie, et qui a conduit un désastre total, non seulement, bien entendu, au regard du droit public, c'est pas le plus important, mais également au regard tout simplement de l'économie et de la société.
Mais en fait, c'est pas au passage. En conclusion, ce que j'ai noté là de votre exposé, c'est que finalement, cette évolution législative souhaitée en Corse, enfin présentée comme souhaitée, se fait avec un référendum ou un vote de la population, une consultation qui finalement a été inversée par de nouvelles propositions, et puis une consultation dont, par avance, là, contrairement au vote précédent, l'aspect consultation n'est que vraiment consultatif, sans aucun effet sur le processus qui est en cours, oui. Et qui donc ne résulte pas du vote de la population. Donc en fait, on aura un statut dont à aucun moment on ne pourra dire que c'est le souhait de la population, sauf dans des votes négatifs.
Alors, ça, c'est important à retenir, mais oui. Ce qui est à retenir aussi, c'est que dans ce nouveau statut d'autonomie, on a derrière la communauté le peuple, Corse, on a derrière la différenciation l'inégalité en droit, derrière cette consultation, on risque d'avoir le désordre.
Bien sûr. Oui.
Et je dirais que derrière l'autonomie, on a le risque de la fédéralisation. Oui. Le risque de la fédéralisation. Voilà. C'est-à-dire le risque d'avoir plusieurs constitutions en France et donc plusieurs droits législatifs en France.
Oui, parce que là dans le processus que vous avez exposé, ou autre chose, là je fais une réflexion de Béotien, c'est que si on peut finalement, par un processus qui pour moi n'est qu'administratif, c'est-à-dire que les consultations sont mises de côté ou réduites à un aspect strictement consultatif non effectif, mais finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi une consultation du reste du peuple français?
Ah, mais vous avez entièrement raison.
Logique, mathématiquement.
Mais je dirais que c'est même pas une consultation, c'est une délibération. Oui. Et c'est ce qui se passe, c'est le cas du Parlement. Le rôle du Parlement, c'est de représenter le peuple français. Voilà. Donc il faut que chaque député, chaque sénateur pense bien, pas seulement aux intérêts de sa circonscription, mais aux intérêts du peuple français dont il est le représentant. Il est le représentant de la nation.
De la nation.
On n'est pas représentant
De la circonscription.
De la cinquième circonscription des Yvelines.
On est représentant de la nation.
On est représentant de la nation. Absolument. Et donc, il faut. Et vous avez raison, c'est accepter cette réforme, c'est accepter un statut dont on peut se demander s'il n'est pas transitoire entre un État unitaire adapté, que l'on a envisagé mais que l'on n'a pas réalisé pour la Corse, car ça a été envisagé et il y a eu des propositions de loi constitutionnelle à ce sujet qui ont été abandonnées, et donc entre cet État unitaire adapté et d'autre part la fédéralisation, l'État fédéral.
Voilà.
Et puis après l'État fédéral, c'est l'indépendance.
Voilà.
Parce qu'il y a des fédérations qui éclatent.
Et entre les deux, des situations conflictuelles dans lesquelles l'État aura des responsabilités, évidemment, d'État.
Et c'est la situation dans laquelle il est aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie.
Voilà. Eh bien, une petite coupure et nous passons à la partie suivante.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
La Nouvelle-Calédonie, c'est un sujet qui...
Et là, pardonnez-moi, professeur, je conseillerais aux éditeurs d'aller sur le site de Radio Courtoisie, regarder votre précédente intervention sur la Calédonie, où vous aviez été extrêmement précis. Je pense qu'il faut regarder dans les émissions, les 12 émissions de l'année précédente, 2025, où vous trouverez l'intervention du professeur Gohain sur la Calédonie.
Alors, s'agissant de la Nouvelle-Calédonie, comme je pense les auditeurs le savent, on est entré dans une aventure juridique très longue et très considérable, puisque on a décidé de faire évoluer très considérablement le statut de cette collectivité territoriale de la République, qui du reste estime ou est estimée ne plus être une collectivité territoriale à l'heure actuelle, mais je passe sur ces problèmes sémantiques que j'ai déjà abordés. Le point de départ, je l'ai dit déjà, c'est la déclaration de Nainville-les-Roches de 1983, qui parle d'un peuple kanak, qui parle d'un droit inné à l'indépendance du peuple kanak, qui parle d'un peuple calédonien, c'est-à-dire des notions qui sont irrecevables dans le droit public français de l'époque. Ces déclarations, elles sont faites entre les indépendantistes et les loyalistes, pour prendre ce terme, même si, effectivement, le RPCR, l'Assemblée pour la Calédonie dans la République, n'a pas accepté, finalement, cette déclaration de Naville-les-Roches. Cela se fait en présence du secrétaire d'État Lemoine, c'est-à-dire du gouvernement.
Oui.
C'est ça qui est important. Bien. Ce processus, donc, n'ayant pas donné satisfaction, les violences avant et après s'étant poursuivies, on a été conduit à ces fameux accords Matignon. Et j'ai déjà évoqué la période transitoire. Ces accords Matignon, ils ont effectivement ramené le calme sur place en renvoyant en quelque sorte la question à une autodétermination à 10 ans, en 1998. Et c'est d'ailleurs un texte qui a été soumis au peuple français en 88. Sachant qu'en 98, ne se prononceraient que ceux qui ont 10 ans de présence en Nouvelle-Calédonie, de domicile en Nouvelle-Calédonie. Par conséquent, un suffrage qui n'était plus universel, mais qui était restreint. Autrement dit, la peuple français a eu à choisir, soit il votait pour, soit il votait contre, mais s'il votait pour, il votait pour quelque chose qui était juridiquement monstrueux, s'il votait contre.
Et définitive.
Alors, qui n'était pas supposé être définitif. Oui. Et donc s'il votait contre, il risquait de rallumer en quelque sorte la guerre civile. Et donc c'était un choix difficile à faire, mais qui a été fait en faveur du texte. Le problème, c'est qu'en 98, il n'y a pas eu cette consultation. Il y a eu les accords de Nouméa, ou l'accord de Nouméa. Et ben, l'accord de Nouméa, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement un accord qui vise à permettre à la Nouvelle-Calédonie d'aller vers l'indépendance. C'est très clairement dit par l'accord, qui n'est pas du tout à ce que l'on dit un accord équilibré, pas du tout. C'est un accord qui va vers l'indépendance, avec à la clé, trois référendums d'autodétermination, dans le cas où un seul d'entre eux est en faveur de l'indépendance, on s'arrête. S'il est négatif, on recommence. Continue. Et s'il est encore négatif, on recommence.
Voilà. Donc on est un
peu on voit bien le déséquilibre.
On est un peu dans la même interprétation bizarre. Selon la réponse du peuple, on agit d'une façon, mais sinon, on continue jusqu'à tant que.
Exactement. Voilà. Et alors, donc, ces référendums d'autodétermination devaient intervenir en fin de processus, le processus étant un processus de 20 ans. Il devait se faire à un suffrage qui serait toujours restreint. Qui serait toujours restreint, disons, pour simplifier, avec cette condition de domicile qui est de 10 ans, alors que dans le droit commun, elle est de 6 mois.
Oui.
Premier référendum, 4 novembre 2018, non à l'indépendance, 57% des suffrages exprimés. 4 octobre 2020, non à l'indépendance, 53% des suffrages exprimés. Troisième référendum, 12 décembre 2021, non. Consigne d'abstention des indépendantistes qu'ils savent qu'ils vont perdre le référendum. 96,5% de suffrages exprimés en faveur du non.
Oui.
Donc il y a eu trois fois non. Qu'il y ait abstention ou pas abstention, c'est sur les suffrages exprimés que l'on apprécie un résultat, que les raisons d'abstention soient bonnes ou soient pas bonnes. Que nous dit l'accord de Nouméa? Et c'est ça qui ne va pas aussi. Si la réponse est encore négative, la troisième fois, et ça a été le cas. Les partenaires politiques, c'est-à-dire en réalité les indépendantistes et les loyalistes, se réuniront pour examiner la situation ainsi créée. Ils se réunissent pour dire quoi? Pour faire quoi? Sachant que il a été estimé par le Conseil d'État et aussi par le Conseil constitutionnel que cette période transitoire qui aurait dû se terminer, qui est toujours ouverte...
Bien sûr.
Et que les loyalistes et les indépendantistes ne sont pas capables de s'accorder sur un texte. Sur un texte qui permette de dire comment sera la Nouvelle-Calédonie dans la République, au sein de la République, avec un statut qui, bien entendu, peut être extrêmement adapté, extrêmement différencié, sur la base d'ailleurs de l'article 74 de la Constitution qui le permet, s'agissant de la Polynésie française, qui a tout de même un droit extrêmement différent, y compris en matière foncière, y compris en matière d'établissement, y compris en matière d'emploi, avec des protections locales qui sont constitutionnelles. Bon.
Mais on est quand même dans une situation extravagante.
Donc on est dans une situation de blocage total.
Oui, oui.
De laquelle l'État a cherché à sortir.
Oui, oui.
Alors, il y a eu une première piste de sortie qui a consisté, en 2024, à dire, bon, écoutez, on ne peut pas continuer avec un suffrage restreint aussi restreint. On va, par conséquent, essayer d'avoir toujours un suffrage restreint, mais moins restreint. Et là, il faut quand même que je donne quelques chiffres simples. Actuellement, il y a, en nombre d'exclus du suffrage universel, 37 492 électeurs en Nouvelle-Calédonie.
Qui représenterait combien ?
Qui représente 17,1% des électeurs de droit commun de la Nouvelle-Calédonie. Alors qu'ils étaient 7,5% en 99. On a donc une multiplication qui est par plus de deux en un quart de siècle des exclus du suffrage universel en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi ? Parce qu'on a gelé l'électorat, c'est-à-dire que, comme je l'ai déjà expliqué, une réforme en 2007 est venue dire « ça ne sera pas 10 ans de présence et puis chaque fois que vous avez 10 ans, vous votez », c'est 10 ans définitivement établis en 98.
Le peuple
et en somme, et bien entendu, la compensation, c'est qu'il y a une transmission du droit de vote par le sang, c'est-à-dire que quand vous êtes électeur en Calédonie, vos enfants eux-mêmes peuvent devenir électeurs. Voilà, je veux dire, c'est assez extraordinaire. Il y a la transmission héréditaire du droit de vote. Il fallait quand même l'inventer. Bon, et donc, compte tenu du nombre de ces exclus, qui ne fait que progresser chaque année, puisque le suffrage est restreint et qu'il est bloqué. Compte tenu de cette situation, une réforme constitutionnelle intervient en 24 pour reprendre la lecture antérieure du Conseil constitutionnel, qui était celle de l'électorat glissant. Dès lors que vous êtes depuis 10 ans en Nouvelle-Calédonie, vous votez, c'est toujours un suffrage restreint, mais je dirais qu'il n'est pas bloqué, et donc il n'a pas vocation à s'accroître. Ça a provoqué des émeutes effroyables en Nouvelle-Calédonie. 2,5 milliards d'euros, 500 millions d'euros de dégâts.
Plus
une population qui s'en va. Oui. La Nouvelle-Calédonie a perdu, en matière de recensement, environ 7000 habitants entre 2019 et 2025.
Qui s'en va, c'est-à-dire qui quitte sa résidence principale.
Voilà. En fait, ils sont rapatriés, pour dire comme le terme pour les Algériens, ils reviennent en métropole, ou bien ils vont en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, qui sont des pays d'accueil. Voilà. Notamment lorsqu'ils font de l'élevage dans la brousse.
Oui.
Voilà. Du côté de Bouraille, il se transporte ailleurs. Voilà. Alors, je voudrais tout de même expliquer que si je rapporte le taux d'exclusion de 17,1% qui est aujourd'hui pratiqué à l'ensemble français, ça fait tout de même environ plus de 6 millions d'électeurs qui n'ont plus le droit de vote. Ça veut dire que l'âge du droit de vote en France, toute comprise, remonte de 18 à environ 25 ans. C'est-à-dire que voilà où on en est.
Alors voilà, voilà où on en est si on prend la photographie instantanée du corps électoral.
Voilà.
Mais voilà où on en est parmi les exemples là, et en parlant de la Corse notamment. Et dans la Corse, on a voté en toile de fond les référendums sur l'Europe, que ce soit Maastricht et 2005. Mais finalement, alors ça c'est peut-être un avantage du droit, c'est que finalement les écarts par rapport à la raison sont parfaitement documentés par la loi électorale, sa non-application, mais des résultats qui sont certains. Le mode de scrutin en France avec ces petits papiers et les enveloppes qui sont dépouillées le jour même sur place, dans l'école ou autre chose, donne un résultat dont on peut penser qu'il est fiable bien plus que par les systèmes de machines électroniques ou autres.
Voilà. Vous avez entièrement
raison. Donc on a ces certitudes, elles sont documentées. L'acharnement, parce qu'on peut parler d'acharnement, c'est-à-dire que là, lorsque le droit vient à être prorogé sans consultation extérieure, au-delà des limites qu'il s'était lui-même fixé, quand on va au-delà des limites fixées, on doit revenir vers l'Assemblée qui a défini. Je ne suis pas juriste,
mais
corrigez-moi, professeur.
Tout ça est parfait.
L'Assemblée qui a défini les limites du champ, s'il y a trois référendums, trois
formes.
Voilà. Bon. Et là, finalement, il y a une méthode permanente de. C'est pas se passer, c'est continuer à prétendre solliciter le vote, le référendum, mais d'une façon constante. Si c'est pas bon, on passe. Alors, on passe dessus. Voilà.
Je voulais indiquer que.
Je voulais indiquer que, par conséquent,
cette réforme, qui est d'ailleurs pas sur l'électorat glissant en 2024, revenir en quelque sorte à l'électorat glissant en 2024, ou plutôt venir à l'électorat glissant en 2024, est passée devant l'Assemblée nationale, elle est passée devant le Sénat, on a commencé par le Sénat, c'est passé devant le Sénat, devant l'Assemblée nationale, et puis ça c'est. Non, c'était l'Assemblée nationale, et puis le Sénat, et puis ça s'est bloqué, compte tenu de ces émeutes. Et le texte a été retiré sous le gouvernement Barnier en octobre 2024. Alors que la réforme aurait pu continuer. Mais on a l'émeute, toujours la violence, prime. Voilà. Et donc on a dit on arrête. Et là, l'État est allé chercher un statut en disant, ben, puisqu'on, avec le même électorat, on va faire quand même un nouveau statut. Et donc ça veut dire encore une révision constitutionnelle qui a été envisagé dans le cadre de ce qu'on appelle l'accord de Bougival en juillet 2025, complété par un accord dit Élysée-Oudinot en janvier 2026. Et ce qui est incroyable, c'est que cet accord de Bougival, très peu modifié par l'accord Élysée-Oudinot de 2026, accord qui est donc un accord entre indépendantistes et loyalistes en présence du gouvernement. C'est le processus que l'on avait connu à Ville-des-Roches, c'est le processus Matignon, c'est le processus accord de Nouméa qui continue. Cède au profit des indépendantistes des éléments qui transforment complètement la situation en acceptant ce que l'accord de Nouméa prévoyait en matière d'indépendance.
Oui, oui.
On a la création d'un État de la Nouvelle-Calédonie. On a envisagé une loi fondamentale, c'est-à-dire une constitution, de la Nouvelle-Calédonie. On a envisagé de transférer à la Nouvelle-Calédonie des compétences de souveraineté. On a, y compris d'ailleurs, les relations internationales, y compris d'ailleurs la défense. On a créé une nationalité calédonienne. Autrement dit, on a accepté à Bougival des choses qui avaient été refusées par les populations de la Nouvelle-Calédonie trois fois de suite.
Plusieurs votes.
Par trois votes successifs. Donc est-ce qu'on se rend compte de l'écart qui se produit entre le peuple ou les populations et leurs représentants? Est-ce qu'on se rend bien compte de la crise démocratique que cela signifie?
Quelle est la légitimité des producteurs de ces propositions et de ces textes nouveaux?
Le fait d'avoir été élu par des gens qui n'auraient pas respecté leur mandat.
Oui.
Parce qu'un mandataire doit respecter les volontés du mandant.
Mais alors, juridiquement, un gouvernement qui ne respecte pas son mandat, qui enfreint façon manifeste le droit. Qui statue ?
Ah bah écoutez, la responsabilité politique, elle s'engage devant le peuple français.
C'est le Parlement, le recours.
C'est-à-dire devant le Parlement. Voilà. Parce que là, en l'espèce, c'est représenté. Il n'y a pas de système de destitution en France directe. C'est une destitution par l'institution parlementaire, pour le président de la République, et aussi par l'institution parlementaire, par la motion de censure, ou le refus de la confiance. Mais la motion de censure, c'est le cas de Barnier en 2024. Le refus de la confiance, c'est le cas de Bayrou en septembre 2025. Donc on a aujourd'hui des illustrations de ces situations de rébellion, en quelque sorte, de l'institution parlementaire par rapport à l'exécutif. Mais tout ceci veut dire qu'en fait, la classe politique ou la classe médiatico-politique crée un consensus et impose son consensus
sans le formuler, et surtout sans
aller vers le peuple ou sans aller vers les populations, ou même en trahissant les peuples et les populations.
Sans même énoncer le principe, énoncer clairement un principe sous-jacent qui pourrait s'appliquer à d'autres cas.
Incroyable. Mais... Alors donc, par conséquent, on a mis de côté ce projet Bougival, modifié Élysée-Oudinot, en disant, on l'a mis de côté, simplement parce que le Sénat a dit qu'il était d'accord, et que l'Assemblée nationale dit qu'elle n'était pas d'accord. Ah, et donc, cette révision constitutionnelle ne peut pas aboutir parce que les deux assemblées sont opposées. D'ailleurs, assez surprenant que le Sénat accepte et que l'Assemblée nationale refuse. On aurait pu penser que le Sénat était plus attentif quand même au respect du droit public français qu'il ne l'a été, compte tenu de sa composition. Oui. Alors, comme tout ceci est en rade, on repart sur la question de l'électorat. Et donc, nous avons une loi organique qui est très récente, puisqu'elle est de 2026, elle est de mai 2026, 28 mai, qui vient, maintenir le suffrage restreint, mais permettre de réduire le nombre des exclus au sein du suffrage restreint. Pourquoi ? Parce que désormais, on va intégrer dans le corps électoral les natifs de la Nouvelle-Calédonie, qui n'aurait pas rempli la condition du vote parce que la durée de 10 ans n'était pas réalisée ou parce que leurs parents n'avaient pas les conditions pour réaliser ou pour détenir ce droit de vote. Donc ça fait quand même une intégration qui va représenter environ 18 500 électeurs, qui va permettre par conséquent de réduire à cet égard, 2575 exactement, qui donc va permettre de réduire à cet égard assez sensiblement quand même le nombre des exclus, mais qui va maintenir quand même le nombre des exclus,
principe.
Parce que
et donc
si
le principe.
À 37 000 vous enlevez 10 000, vous avez quand même 27 000 qui restent en rade.
Et donc le principe, parce que finalement, cette exclusion maintenant, elle date de plus de...
Oui.
De 80...
Voilà.
88.
Alors, on maintient l'électorat restreint, on le maintient gelé, puisqu'il y a eu toutes ces émeutes en juin 2024, mais cependant, on y met les natifs de la Nouvelle-Calédonie qui, ça a été accepté par les indépendantistes, qui réduit le nombre des exclus de 37 000 actuellement à environ 27 000.
Donc en fait, on a un peuple français,
voilà.
Mais dans certaines zones, pendant 25 ans, 30 ans, on exclut.
Oui.
Et on vous donne la liste.
Oui.
Voilà.
Il y a eu un contentieux très intéressant porté devant le Conseil constitutionnel à ce sujet.
Le Conseil constitutionnel a dit
c'est constitutionnel puisque la Constitution le dit.
Ah ouais. Oui, il faut dire qu'on a un Conseil constitutionnel.
Non, mais de toute façon, le Conseil constitutionnel ne peut pas dire autre chose. Il dit c'est constitutionnel parce que la Constitution le dit.
Oui,
et effectivement, le pouvoir de révision dit ce qu'il a à dire. Et vous ne pouvez pas aller contre le pouvoir de révision.
Oui.
C'est comme ça.
Oui.
Voilà. Alors, je voulais simplement appeler l'attention des auditeurs sur le fait que non seulement le suffrage n'est pas universel en Calédonie, pour les élections provinciales, pour le Congrès, mais également qu'il n'est pas un suffrage égal. C'est-à-dire que nous sommes en situation de surreprésentation
des provinces indépendantistes
en Nouvelle-Calédonie.
Oui.
Alors j'explique ceci, nous avons un congrès qui est de 54 sièges. Dans ces sièges, ils sont répartis entre les trois provinces. Il y a 7 membres de l'Assemblée de province les provinces des îles Loyauté, qui siègent à Nouméa dans le Congrès. Il y a 15 membres de l'Assemblée de la province Nord qui siègent à Nouméa dans le Congrès. Et il y a 32 membres de l'Assemblée de province Sud qui siègent dans le Congrès. 7, 15, 32 égale 54. Oui. Au départ, dans le départ, ça nous donnait, j'en ai pas pour longtemps, au départ, ça nous donnait 13% des sièges en faveur de la province des îles Loyauté, ça nous donnait 28% des sièges pour la province Nord et 59% des sièges pour la province Sud. Oui. Donc la province Sud, elle est majoritaire tout simplement parce qu'elle est la plus peuplée.
Elle est plus nombreuse. C'est tout simple.
Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que la population, évidemment, a varié. Et que la variation de cette population s'est faite au détriment des provinces indépendantistes et aux faveurs de la province loyaliste. Sans que l'on puisse changer les proportions. De telle sorte qu'aujourd'hui, on a un avantage numérique au profit des indépendantistes au sein du Congrès et un désavantage qui est environ de 10% en défaveur des loyalistes. Donc, le suffrage n'est pas égal, tout simplement parce que un homme, une voix, ça n'est pas vrai. Lorsque vous êtes électeur dans les provinces indépendantistes, vous comptez davantage que lorsque vous êtes électeur dans la province loyaliste.
Et la tendance, à partir du moment où la violence parle, la tendance ne peut que s'accélérer. Toutes choses égales par ailleurs, si on peut dire.
Voilà. Et alors, puisqu'il nous resterait peu de temps, je voulais simplement, sur la République, insister sur les problématiques de rupture, auxquelles j'ai déjà insisté là-dessus, de rupture dans la démocratie française, par le fait qu'il y a une insuffisance considérable, bien sûr, de la démocratie directe. Il y a une demande de référendum national et de référendum local. Et je vois bien que cette thématique sont abordés dans le cadre de la campagne électorale des présidentielles. Oui. Il y a une volonté de donner la parole au peuple, par exemple, sur les questions d'immigration, sur les questions de décentralisation, sur les questions de finances publiques, etc. Donc ça, c'est un point important. Et je voudrais aussi appeler l'attention des auditeurs sur le fait que ces ruptures que nous avons constatées entre ces peuples ou ces populations qui disent non et ces parlementaires ou ces élus qui disent oui, c'est une situation que se rencontre fréquemment, trop fréquemment. Nous avons parlé de la Corse, 2003, et cependant en 2015, on impose le statut qui a été refusé en 2003. On a parlé, bien entendu, aussi de la Nouvelle-Calédonie. Ces populations calédoniennes qui refusent par trois fois une réforme que les élus cherchent cependant à imposé à l'occasion de l'accord de Bougival modifié Élysée-Oudinot. Mais il faut savoir que en Alsace, en 2013, on a refusé la collectivité unique et qu'on l'a imposé cette collectivité par la loi. Il faut quand même vérifier que la métropole de Lyon qui a dépecé le département du Rhône, c'est une solution qui a été imposée par les parlementaires sans aucune consultation de la population concernée. Que la ville de Paris a changé de statut en 2017 sans que la population soit aucunement interrogée. Et vous voyez que donc ces modifications qui sont à la convenance des élus et substantielles et qui sont faites dans le dos de ceux qui détiennent la souveraineté, de ceux qui détiennent le pouvoir de vote.
Par l'abandon de principes qui restent quand
Le droit et le pouvoir de vote.
Voilà, des principes qui restent quand même extrêmement partagés avec certitude par la population. C'est-à-dire, aller voter, c'est un principe. Ce principe est contrebattu.
Et quand on est dans une réforme simple et simplement expliquée, je crois que les gens savent très bien s'ils votent pour ou contre. En définitive, ils hiérarchisent leurs intérêts.
Voilà, chers auditeurs, bonsoir.
Vous venez d'entendre le libre journal de la France libre, dirigé par Alain Raoult Émission préenregistrée le 16 juin 2026 et diffusée pour la première fois mardi 23 juin 2026 de 14h à 15h30 et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir l'enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.